Voici la revue de presse d'Aurélien Colli. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
L'économie mondiale en général et celle de la France en particulier se porte bien dans les journaux.
C'est à la une du journal du dimanche avec le visage de Christine Lagarde, patronne du FMI, qui fait le diagnostic et décrypte les grandes tendances pour 2018. Bon point pour la France, bon point pour l'Europe, quelques inquiétudes sur la Chine et l'Amérique, résume le journal. Avec une croissance de 3,6%, l'économie mondiale reviendra au niveau d'avant la crise financière de 2008, explique Christine Lagarde, qui estime donc que le temps est propice pour poursuivre les réformes structurelles. Inspirée, l'ancienne ministre de l'économie nous dit que quand le soleil brille, il faut changer le toit, à condition d'en avoir un. Dans les chiffres donnés par le GDD, il y a aussi les inégalités, toujours plus criantes. 1% de la population mondiale détient 22% des richesses, 50% de la population mondiale n'en détient que 10%. En France, les voyants sont néanmoins au vert et Christine Lagarde salue les réformes de ces dernières années, de ces derniers mois, dans la ligne de ce que le FMI recommande depuis plusieurs années, explique-t-elle. Ces réformes, elles vont d'ailleurs continuer. Rien n'a filtré sur les vœux d'Emmanuel Macron ce soir. Cyril Graziani nous le redisait il y a un quart d'heure, mais le président se projettera en 2018. Attention quand même, mois de janvier sous pression pour Macron, titre le JDD, avec plusieurs dossiers chauds qui divisent les Français, sa majorité, laïcité, immigration, baisse de la vitesse sur les routes, contrôle des chômeurs, des dossiers urticants pour reprendre l'expression du JDD, qui rappelle que le président bénéficie surtout de la bonne conjoncture mondiale et de l'héritage du précédent quinquennat. Macron, la bonne étoile, c'est d'ailleurs la une du Parisien dimanche qui souligne que le président a su tirer un profit politique de cette embellie. C'est le facteur chance pour le journal qui lui consacre une double page en reconnaissant quand même sa vision et son volontarisme. La mer rouge s'est ouverte devant lui, commande de son côté Jean-François Copé qui salue son habileté. Sans audace, la chance ne sert à rien selon lui. Le socialiste Stéphane Le Foll, lui, est un peu plus amer. Il met en garde le président, gare à l'excès de supériorité, la chance peut tourner.
Oui, la chance peut tourner, c'est notamment ce qu'espère la droite, Aurélien.
Oui, le JDD se penche sur la manière dont Laurent Wauquiez, nouveau président de LR, entend attaquer Macron à la rentrée. Pour s'affirmer en opposant numéro 1, il compte sur son gouvernement fantôme, des personnalités bien identifiées pour contrer l'exécutif sur chaque dossier. Une communication agressive aussi, nous dit le journal, qui explique que Laurent Wauquiez s'est mis au puzzle en cette fin d'année. Il doit recomposer une droite qui a touché le fond avec des composantes éparpillées aux quatre vents et en perdant le moins de pièces possible. Parmi les pièces centrales, le JDD fait aussi le portrait de Guillaume Pelletier, le jeune vice-président de LR, à la droite du chef, titre le journal, qui revient sur le parcours de ce jeune loup de la politique, début au Front National, passage chez Philippe de Villiers, puis Nicolas Sarkozy et finalement Laurent Wauquiez. Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt, disait de lui Nathalie Kosciusko-Morizet, alors que sa montée en puissance confirme pour certains les soupçons de flirt de LR avec le FN.
La droite donc qui tente de se reconstruire, et bien la gauche aussi Aurélien.
Une information encore du JDD. Enfin les candidats à la reprise d'un parti socialiste moribond se sont parlé. Ça s'est passé dans un café non loin de l'Assemblée nationale à la mi-décembre. À la même table, la bande des Quadras incarnée par Olivier Faure, président du groupe à l'Assemblée nationale, ou Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'éducation, et les historiques emmenés par Stéphane Le Foll, même Jean-Christophe Cambadélis était là. Objectif, empêcher la multiplication des candidatures. Mais c'est compliqué, car tout le monde se regarde en chien de faïence, admet un ponde socialiste. Ils doivent se revoir à la rentrée. Et le temps presse, car fin janvier, la question du chef devra être tranchée pour le dépôt des textes d'orientation.
Alors, plus léger maintenant, plus léger que la politique en hiver, voici les flocons de neige dans les journaux et les flocons de neige dans nos montagnes.
Oui, alors que Ouest France met en garde contre l'arrivée de la tempête Carmen sur la côte atlantique, la presse locale des cimes revient sur la journée noire des vacanciers qui partaient ou revenaient des stations de ski hier. En bon français grincheux, certains se plaignaient des heures passées dans les embouteillages. Et pourtant, si on va à la montagne pour skier, peut-on vraiment s'étonner d'avoir de la neige? Fin d'année oblige, les journaux continuent aussi de tirer le bilan de 2017 avec un optimisme palpable. Ils ont fait 2017 à la une de l'Ardennais, une année tout en sourire pour le Courrier de l'Ouest, les 10 bonnes nouvelles de 2017 en une de la Dépêche. Quant à l'enterrement de cette année 2017 ce soir, eh bien la Nouvelle République nous apprend que les réveillons collectifs connaissent un insolent succès. Et puis le Parisien nous donnait hier la recette d'un réveillon de champion en nous incitant même à danser la chenille.
Ça va pas recommencer.
Je vous promets Patricia, eh bien dans les heures plus avancées de la nuit, vous pourrez aussi renouer avec un bon vieux slow, enquête dans le monde sur la disparition de la danse préférée des timides dans le numéro spécial du Monde pour ce week-end prolongé.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo.
Attaque.
C'est Nostalgie, écrit le journal, qui regrette que le slow ait été condamné pour son caractère érotique et sa grammaire désespérément simpliste. Et pourtant, c'était le moment de la soirée où les champions du rock, comme vous Eric, avaient fini de rouler des mécaniques. Et des le peines. Moment où les couples se nouaient, mains autour du cou et des hanches, se nouaient pour
ça
la soirée,
vécu,
pour la nuit ou pour la vie.
Say you, say me, say it together. Naturally.
Alors là, vous y êtes, hein. Et pour se motiver et oser le slow ce soir, il y a les bulles de champagne, avec modération bien sûr. Saviez-vous pourquoi tant de veuves dans les étiquettes de champagne? Veuve Clicquot, veuve Pommerie, veuve Bollinger.
Expliquez-nous ça.
C'est à lire dans Ouest France. Ces maisons étaient dirigées par des femmes au 19 et au 20e siècle qui ont repris en fait les affaires de leur mari décédé. Et à l'époque, le statut de veuve était le seul moyen juridique pour elles de s'inscrire dans la continuité de leurs époux, de pouvoir donc diriger l'entreprise, signer des chèques, tenir une comptabilité. La première femme qui s'est lancée dans l'aventure, c'est Barbe Clicquot, épouse de Philippe, la veuve Clicquot, devenue l'une des marques les plus connues au monde.
Merci pour ces précisions et la revue de presse de Aurélien Colli et les contributions de Guy Bedos. On n'a pas entendu Sophie Daumier et on a bien entendu Lionel Richie pour l'illustration musicale.